Frères et sœurs, j'aimerais m'entretenir avec vous de cette question. Est-ce que les guérisons opérées par Jésus et que l'on dit miraculeuses sont vraiment des guérisons miraculeuses? Et de façon plus générale, est-ce que les guérisons miraculeuses sont miraculeuses? On a parlé beaucoup du 150e anniversaire de l'apparition de Bernadette, de l'apparition de la Vierge Bernadette, ne mélangeons pas les rôles. Et il y a eu, semble-t-il, un certain nombre de guérisons qui ont été authentifiées par un comité d'experts international, le comité international d'experts de Lourdes, et aussi par l'Église catholique. Il y a eu 67 guérisons qui ont été reconnues comme miraculeuses par l'Église catholique depuis 150 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a eu 7 la première année, et que depuis 30 ans, il n'y en a eu que 5. Le miracle diminue. Donc, en fait, c'est une question. Les guérisons de Jésus auraient-elles été déclarées miraculeuses par le comité international d'experts de Lourdes? Je ne crois pas. Donc, les guérisons de Jésus, les guérisons miraculeuses de Jésus sont-elles miraculeuses? Et de façon générale, les guérisons miraculeuses sont-elles miraculeuses? Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement à Lourdes. Dans les milieux protestants, il y a beaucoup de guérisons miraculeuses. Je pense qu'à l'heure précise qui est la nôtre, dans une bonne partie de la région parisienne, il y a des guérisons miraculeuses et des personnes qui témoignent dans les temples de guérisons miraculeuses. Voyons les textes bibliques sur lesquels nous réfléchirons pour répondre à cette question. Les guérisons miraculeuses sont-elles miraculeuses ? D'abord, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, au verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière de Jésus et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus ne dit pas « Je te guéris », il ne dit pas « Dieu te guérit », il ne dit pas « La grâce te guérit », il dit « Ta foi », c'est-à-dire « ta confiance te guérit ». Ça, c'est quelque chose qui est bien connu, la confiance guérit, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, qui est tout à fait reconnu et qui est extrêmement efficace, même sur des maladies qui ne sont pas forcément psychosomatiques. Alors maintenant, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, à partir du verset 5. Non, je lis d'abord Jean, pour prendre dans l'ordre des textes que j'évoquerai. Dans Jean 5, le récit de la guérison du paralytique à la piscine de Bethséba. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséba et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. C'était uniquement une sorte de concours de vitesse. C'était le premier qui se jetait dans l'eau qui était guéri. Et ceci, quelle que soit sa maladie. Les eaux miraculeuses, c'est un phénomène extrêmement général. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Depuis 38 ans, il était couché au bord de la piscine. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» C'est la vraie question. Veux-tu être guéri? As-tu vraiment envie d'être guéri? C'est pas du tout certain. La plupart du temps, on n'a pas vraiment envie d'être guéri. Beaucoup de malades n'ont pas envie d'être guéris. N'ont pas vraiment envie d'être guéris, de la même manière que beaucoup de fumeurs n'ont pas vraiment envie d'arrêter de fumer. Donc, effectivement, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Donc, autrement dit, depuis 38 ans, cet homme-là est là au bord de la piscine, apparemment comme s'il voulait être guéri, mais il n'a jamais trouvé le moyen en 38 ans de trouver quelqu'un qui le mette à l'eau et qui lui permette d'être guéri. Donc, j'en conclus qu'effectivement, il n'a peut-être pas très très envie d'être guéri. Et alors Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche, prends ta natte et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et ensuite, le problème c'est qu'il avait marché et porté son lit, mais que c'était le jour du sabbat. Autrement dit, il avait transgressé la loi du sabbat, qui est interdit de porter quoi que ce soit le jour du sabbat. Bon, et ça, c'est un point très important, nous y reviendrons. Donc je lis maintenant dans l'évangile selon Marc, au chapitre 5, le récit de la guérison du démoniaque de Gadara. Alors cet homme était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, il se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Autrement dit, lui aussi a une attitude extrêmement ambiguë. D'une part, il court vers Jésus, mais immédiatement après, il établit une distance très forte entre Jésus et lui, et il lui dit « Ne me tourmente pas ». Ne me tourmente pas, autrement dit, ne viens pas tourmenter le démon qui est en moi et qui veut que je reste malade. Et Jésus lui dit au démon, sors de cet homme, esprit impur, et ensuite donc cet homme est guéri. Et pour faire bonne mesure, bien, je prendrai un texte de l'Ancien Testament, parce qu'il y a aussi quelques guérisons miraculeuses dans l'Ancien Testament. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20, il s'agit de la guérison de Ézéchias. Ézéchias était malade à la mort. Le prophète Ésaïe, celui qu'on connaît bien, lui dit « Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » Enfin, autrement dit, il pleure pour ne pas mourir, ça se comprend. Enfin, ça se comprend. C'est comme ça, pour lui en tout cas. Et Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le milieu de la cour. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée, il lui dit, retourne donc vers Ézéchias, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras dans la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours 15 ans. 15 ans de rabe. Alors, Ésaïe donc revient vers Ézéchias et qu'est-ce qu'il fait pour opérer cette guérison qui est assurée et attestée? Il prend une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. On voit à quel point le phénomène des guérisons naturelles est proche des guérisons miraculeuses. La guérison naturelle se fait par des voies naturelles, par cette masse de figues. Bon, c'est une thérapie naturelle, écologique. Et donc, c'était considéré comme une thérapie miraculeuse, venant de Dieu. Et ensuite, alors, Ézéchias avait dit à Ésaïe, Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe est-ce que je pourrais reconnaître que Dieu me guérira et que je pourrais monter le troisième jour vers la maison de l'Éternel ? » Et Isaïe lui dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe que tu reconnaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ?» Il s'agit de l'ombre du gnomon d'un cadran solaire. « L'homme avancera-t-elle de 10 degrés ?» Au contraire, reculera-t-elle de 10 degrés ?» Enfin, si vous regardez un cadran solaire, l'ombre avance toujours. Et Ézéchias dit, donc c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais c'est beaucoup plus difficile qu'elle recule de 10 degrés. Et alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel et fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz. Autrement dit, l'ombre recule de 10 degrés, autrement dit, le temps remonte. Le temps remonte, et c'est parce que le temps remonte que, en quelque sorte, le temps remonte de 15 ans, et c'est pour ça que Ézéchias bénéficie de 15 ans de plus de vie. Parce que le temps remonte de 15 ans, à l'image de ce gnomon du cadran solaire, de l'axe du cadran solaire, qui va en arrière, au lieu d'aller en avant. Et nous aborderons donc les problèmes posés par ces quatre guérisons. Et nous chantons maintenant le psaume 138, strophes 1, 2 et 3, dans le psautier français. Ô notre Dieu et notre Père, nous aspirons tous à ce qu'il se passe un miracle, des miracles dans notre vie. Nous aspirons tous à une guérison miraculeuse de notre corps, de notre esprit, de nos relations avec les autres. Ô notre Dieu et notre Père, on nous a dit et nous avons voulu croire que tu étais le Dieu des choses impossible, que tu étais le Dieu des miracles impossibles. C'est ce que nous venons te demander, l'impossible, le miracle. On nous a dit et nous avons voulu croire que dans les anciens temps, tu avais su changer des pierres en vivants enfants d'Abraham. C'est impossible, Seigneur, et c'est pourtant le miracle que nous venons te demander. Peu à peu, nos cœurs deviennent de pierre. Nous cessons de nous émouvoir, nous cessons d'avoir pitié, nous cessons même de pleurer. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu des miracles impossibles, nous venons te le demander. Change nos cœurs, afin que nous puissions de nouveau avoir confiance dans la vie, nous émouvoir et espérer. C'est impossible, Seigneur, et c'est pourquoi c'est ce que nous venons te demander. On nous a dit aussi, et nous avons voulu croire que dans les anciens temps, tu avais su ouvrir la mer rouge, infranchissable, devant ton peuple en marche, pour qu'il puisse quitter la terre de servitude d'Égypte et pour aller vers la terre promise de liberté. Ouvrir la mer infranchissable, c'est impossible, Seigneur, et c'est pourquoi c'est ce que nous venons te demander. Devant nous et entre nous, il y a la mer infranchissable des peurs, des mauvaises volontés, des incompréhensions, des ignorances de toutes sortes. Seigneur Dieu des choses impossibles, ouvre cette mer de l'indifférence et des querelles entre nos prochains et nous-mêmes. C'est impossible, Seigneur, c'est pourquoi c'est ce que nous venons te demander. On nous a dit aussi, et nous voulons le croire, que dans les anciens temps, tu avais su rendre fécondes les entrailles des femmes stériles et que tu savais redonner aux vieillards la pulsation d'un sang rénové. C'est impossible, Seigneur, et c'est pourquoi c'est ce que nous venons te demander. On nous a dit aussi, et nous avons voulu le croire, qu'un jour de Pâques, tu avais su faire de la mort une porte ouverte sur la vie. C'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi c'est ce que nous venons te demander. Amen. Mon excellent collègue Laurent Gagnebin m'a souvent cité ce mot d'un pasteur qui était peut-être pasteur à l'oratoire d'ailleurs, en tout cas pasteur libéral, et qui avait dit « Je crois en Dieu, malgré les miracles. Mon excellent collègue, je trouve que cette parole est un peu facile. Est un peu facile parce qu'en fait, il me semble qu'au plus profond de nous-mêmes, la croyance en Dieu se confond avec l'espoir qu'il puisse y avoir un miracle. Et je me demande finalement quelle est la consistance d'un Dieu qui ne serait pas un Dieu qui puisse accomplir vraiment des miracles. Ce Dieu deviendrait peut-être une catégorie de l'idéal, ou une catégorie de la perfection, ou je ne sais quoi encore. Mais en fait, à dire vrai, ce n'est pas vraiment un Dieu qui serait vraiment le Dieu d'une foi, et avec lequel on aurait une relation de prière, d'attente et d'espérance. Oui, effectivement, je le dis tout de go, en fait, au plus profond de nous-mêmes, il y a toujours, profondément toujours, l'idée, l'espoir que s'il y a un Dieu, il puisse accomplir des miracles. Et même des miracles dans le domaine des guérisons physiques, parce que c'est bien facile de parler des guérisons spirituelles, ou je ne sais trop quoi, ou j'en sais rien. Mais en fait, non, il s'agit bien de guérisons, de choses qui nous font souffrir, parce que c'est effectivement la perspective de la mort et la souffrance elle-même qui nous conduit réellement à la prière. Personnellement, je n'ai jamais vraiment profondément prié qu'au chevet de malades qui m'étaient chers, en demandant qu'il y ait une guérison miraculeuse. Mais le problème, c'est qu'on peut se demander si les guérisons miraculeuses sont vraiment des guérisons miraculeuses. Bon, des guérisons miraculeuses, comme je le disais tout à l'heure, il y en a vraiment en pagaille. Il y en a en pagaille, toujours pas au même lieu, pas Lourdes. Mais par El Monial, par exemple, vous pouvez y aller, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérisons. Chez les baptistes américains, les sud-américains, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérisons. Chez les tziganes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérisons. Chez les protestants réformés de l'oratoire du Louvre, il y a très, très peu de guérisons miraculeuses. Bah oui. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même essayer de réfléchir pourquoi et comment. Donc, la vraie question, c'est de savoir si les guérisons miraculeuses sont vraiment des guérisons miraculeuses. Et je dis également si les guérisons miraculeuses de Jésus doivent être vraiment considérées comme des guérisons miraculeuses. Et je le dis tout de go, me semble-t-il, les guérisons miraculeuses de Jésus, si elles avaient été soumises au comité d'experts médicaux, de médecins de Lourdes, n'auraient pas été déclarées miraculeuses. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a si peu de guérisons qui ont été considérées comme miraculeuses par ce comité et par l'Église catholique? Parce que les critères pour définir une guérison miraculeuse comme étant effectivement miraculeuse sont d'une extrême sévérité. Il faut que la guérison soit instantanée, il faut qu'elle soit définitive, il faut bien sûr qu'elle soit sur une maladie qui ne soit pas une maladie psychologique, et aussi et surtout que cette guérison ne puisse pas être confondue avec une guérison naturelle. Car je le disais tout à l'heure, il y a des guérisons naturelles, il y a des évolutions favorables des maladies qui sont extrêmement étonnantes et qui sont pourtant tout à fait naturelles. Bon, ces guérisons naturelles sont bien connues. L'exemple le plus connu, c'est le lézard. Vous lui coupez la queue, quelques jours après, il a de nouveau une queue entière. Bon, voilà. Donc, il y a effectivement un phénomène somatique, normal, organique, de reconstitution de la santé. Il y a une pulsion de vie, une force de vie qui se manifeste, pas simplement dans la queue des lézards, mais également chez les êtres humains. Et il y a des guérisons naturelles de la tuberculose et du cancer, et de bien d'autres choses, qui ne sont pas a priori des maladies psychosomatiques. Donc, effectivement, le grand problème pour les comités, le comité de Lourdes, c'est d'avoir la preuve, d'avoir des diagnostics de la maladie avant la guérison, prouvant que cette maladie n'était pas susceptible d'une évolution favorable naturelle. C'est ça le grand problème. Et voyez-vous, depuis que il y a la radio, c'est-à-dire depuis 1914 à peu près, et ensuite des instruments beaucoup plus sophistiqués, il y a des possibilités de faire des diagnostics, non pas de la guérison, mais des diagnostics de la maladie avant guérison, pour avoir la certitude que cette maladie n'était pas susceptible d'une évolution naturelle favorable. Et donc, depuis qu'il y a de plus en plus de possibilités d'examen, eh bien, le nombre de guérisons considérées comme naturelles, eh bien, miraculeuses, je veux dire, eh bien, diminue de manière drastique, je vous le disais, 5 depuis 30 ans. Alors, donc, il y a des tas de guérisons qui sont quelquefois considérées comme miraculeuses, mais qui ne le sont pas. Et nous allons voir, à propos des textes bibliques que nous avons lus tout à l'heure, de quelle manière on peut expliquer, autrement que par un miracle, ces guérisons qui sont présentées comme des guérisons miraculeuses. Donc, le premier texte que nous avons pris, eh bien, c'est le texte de cette femme, voyez-vous, qui touche le vêtement de Jésus, et elle est guérie, et Jésus lui dit, ta foi, ta confiance t'a guéri. C'est une illustration parfaite de ce qu'on appelle le placebo et l'effet placebo. Le vêtement en lui-même de Jésus n'a aucun effet thérapeutique. Mais de la même manière que si vous donnez un placebo, c'est-à-dire un médicament sans aucune vertu thérapeutique particulière, eh bien, il n'a en lui-même aucun effet curatif et thérapeutique. Mais, le fait même de consommer ce médicament, eh bien, produit l'effet placebo, et l'effet placebo est parfaitement avéré, et l'effet placebo a un effet, effectivement, en tout cas un effet analgésique, et même un effet réellement thérapeutique. Alors, il y a tout un tas de discussions entre les experts pour savoir si l'effet placebo agit simplement sur les symptômes de la maladie, les signes extérieurs de la maladie, ou s'il agit sur la réalité elle-même de la maladie. Enfin, je laisse ces querelles aux experts. De toute manière, ce qui est clair, c'est que l'effet placebo agit. Et ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que l'effet placebo agit en déclenchant en nous, juste en activant en nous, justement, le processus qui permet les guérisons naturelles. Voyez-vous, il y a une intime liaison entre l'effet placebo et l'effet de guérison naturelle, à savoir qu'il y a un certain nombre de substances qui déclenchent des guérisons naturelles, et ce sont ces substances-là qui sont mises en œuvre par l'effet placebo. Donc, voyez-vous, l'effet placebo joue incontestablement, il joue vis-à-vis des guérisseurs. Les guérisseurs représentent la figure du Père dans lequel on a confiance. Et donc, le guérisseur déclenche un effet placebo par sa figure, la figure paternelle qu'il représente. Et peut-être que la Vierge Marie, eh bien, représente aussi une figure maternelle de l'univers d'enfance, hein, toute la fantastique de l'enfance. Et donc, finalement, il déclenche la figure de la Vierge Marie, déclenche donc une sorte d'effet, peut déclencher un effet placebo, qui met en place un processus de guérison naturelle, par l'effet placebo. Et donc, Jésus le dit très clairement, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Jésus ne dit pas « Dieu t'a guéri », Jésus ne dit pas « la grâce de Dieu t'a guéri », Jésus ne dit pas « Jésus t'ai guéri », Jésus dit simplement « ta foi », c'est-à-dire ta confiance, t'a guéri ». Donc finalement, il s'agit parfaitement clairement d'une guérison par la foi et par la confiance, et cette formule « ta foi t'a guéri » est souvent reproduite dans les évangiles. On parle de guérison par la foi, et non pas de guérison par la grâce. J'en viens à ce deuxième texte que je lisais. Donc, il s'agit de cet homme qui, depuis 38 ans, est sur la margelle d'une piscine, supposée miraculeuse. Et, en fait, cette piscine donc a cette propriété de guérir uniquement le premier qui se jette à l'eau et ou qui est jeté à l'eau par les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet homme-là, depuis 38 ans, ne s'est jamais jeté à l'eau et n'a jamais été jeté à l'eau. Parce qu'il y a effectivement des personnes qui, pour des raisons quelquefois très très différentes, en fait, et bien sûr assez souvent inconsciemment, n'aspirent pas vraiment à la guérison. Parce que finalement, la maladie donne une sorte d'existence à leur vie. Elle donne une consistance à leur vie, elle donne à celui qui souffre l'image d'un martyr, enfin de quelqu'un à plaindre, et donc effectivement il y a une sorte de complaisance à la maladie, et on n'a pas l'énergie réelle pour vouloir vraiment désirer la sortie de la maladie. Donc Jésus s'adresse à cet homme et il lui dit donc « Lève-toi, prends ta natte ou prends ton lit et marche ». Et donc ceci nous amène à parler d'un deuxième processus de guérison qui est tout à fait connu et reconnu par tout le monde, qui est le guérison par l'hypnose. L'hypnose a un effet certain, enfin c'est absolument avéré, et cet effet avéré de l'hypnose est le suivant, d'après, bon, je parle sous le contrôle des articles que j'ai pu lire de M. Roustan, entre autres, sur cette question, parce que l'hypnose, en fait, endort les processus qu'il y a en soi qui s'opposent à la volonté de la guérison. Autrement dit, l'hypnose ne guérit pas en elle-même, elle endort les forces qui s'opposent à la guérison. Et donc, par là même, elle permet le déclenchement du processus de la guérison naturelle elle-même. Donc, effectivement, la force de la parole de Jésus, peut-être son regard, j'en sais rien, crée donc une sorte d'hypnose. Et ce qui était très intéressant, c'est donc la guérison de cet homme se fait par le fait que cet homme va avoir à transgresser la loi du sabbat. Donc, la guérison se fait par une transgression. La force d'une transgression est une force d'énergie extrêmement grande. C'est la même que la force de la révolte. Et cette force de transgression, c'est en fait la transgression de la loi qui dit « tu dois rester malade ».« Tu dois rester malade ». La loi du sabbat était une loi qui disait « pendant le jour du sabbat, on ne guérit pas, on ne guérit pas ». Donc, il y a une sorte de respect de la loi, qu'on appelle quelquefois la loi divine même, qui veut qu'on soit malade, qu'on est puni par Dieu pour telle ou telle raison. Et donc, effectivement, le fait de se conforter dans sa maladie est comme si on se soumettait à une forme de loi. Et donc, effectivement, la guérison se fait par une transgression. On se dresse face à la loi, qui dit « tu dois rester malade ». Et donc c'est extrêmement important que cette résurrection, pourrait-on dire, de ce malade, qui se lève tout d'un coup, alors que ça faisait 38 ans qu'il était couché au bord de cette piscine, se fait par l'énergie de la transgression. Troisième exemple, eh bien il s'agit de ce démoniaque, on dit cet homme possédé par le guéron, le démon de Gadara. Et là, le démon, effectivement, les phénomènes de possession sont des phénomènes qu'on peut étudier, qui sont étudiés d'ailleurs tout à fait scientifiquement par le laboratoire de Georges Devereux, et qui s'intéresse à tous les phénomènes de possession et qui a pour clientèle essentiellement des personnes venues d'Afrique noire ou des Antilles, et qui viennent là en étant persuadés qu'ils sont sous l'emprise d'une possession. Qu'est-ce que c'est que l'emprise d'une possession? C'est l'emprise de la puissance d'une grand-mère ou de je ne sais quoi, qui veut que l'on reste malade. C'est cela, la possession. Et donc, effectivement, ce laboratoire, qui fait partie de l'université de Paris, je ne sais plus combien, Eh bien, essaie d'étudier donc le phénomène de désenvoûtement, sur un mode tout à fait psychanalytique, eh bien, ce phénomène de désenvoûtement consistant effectivement à expulser la force qui veut que le malade reste malade, et dont le patient se prétend posséder. Donc, effectivement, ici, là, ce que fait Jésus, c'est qu'effectivement, il expulse le démon. Et une fois qu'il a expulsé le démon de cet homme, eh bien, le processus de guérison naturelle peut s'opérer. Alors, effectivement, si vous voulez, cette question de l'exorcisme, qui est une question qui est également étudiée, qui est très liée à la question de la transe, est aussi très proche de celle de l'hypnose. Il y a des cas d'auto-hypnose, le somnambulisme est un cas d'auto-hypnose bien connu. La transe est également une forme d'auto-hypnose, ou d'hypnose suscitée par un tiers, par le rythme de la musique, ou je ne sais quoi. Mais il peut y avoir tout simplement une auto-hypnose, et l'effet placebo est d'ailleurs lui-même considéré un peu comme une forme d'auto-hypnose. Donc il y a une forme d'auto-hypnose, bien connue par le somnambulisme, qui en fait permet d'endormir, là aussi, comme je le disais, les forces qui s'opposent à la guérison et qui permettent donc la guérison elle-même. J'en viens à mon quatrième texte, qui est celui donc de la guérison d'Ézéchias. Alors là, voyez-vous, comme je le disais tout à l'heure, eh bien cette guérison d'Ézéchias se fait, bon, d'une part par le paquet de figues, bon, thérapie tout à fait naturelle, et elle se fait aussi par quelque chose qui est extrêmement surprenant, qui est l'indication que le temps remonte. Donc c'est ce qui permet donc d'avoir un temps supplémentaire de vie pour le malade. Et le temps remonte, le fait que le temps remonte est signifié par le fait que l'ombre du cadran solaire, eh bien, va dans le sens inverse du sens dans lequel il doit normalement courir. Alors là, il s'agit aussi d'un phénomène qui est beaucoup plus obscur, j'en conviens, mais qui est hypothétique et qui est lié aux bienfaits thérapeutiques de la régression. Tout le monde sait ce que c'est que la régression. Quand un enfant régresse, qui revient à un stade antérieur à celui dans lequel il était, eh bien, il se remet à sucer son pouce, je ne sais quoi. Enfin, bon, mais un stade de régression. Et bien, en fait, les psychologues considèrent que la régression, c'est-à-dire le fait de revenir en arrière, le fait d'avoir donc en quelque sorte l'ombre du cadran solaire qui va en sens inverse, la régression a des effets thérapeutiques positifs. Et donc certains ont pu considérer que les guérisons de Lourdes pouvaient s'expliquer de la même manière, de la manière suivante. Le malade, face à toute la fantastique de Lourdes et de l'image de la Vierge qui représente la mère, le malade régresse, c'est-à-dire qu'il se retrouve en enfance, il retombe dans l'enfance, pourrait-on dire. Il retombe dans l'enfance, il retombe dans les contes de fées, il retombe dans l'atmosphère un peu magique de ce qu'on lui a appris sur la religion de l'enfance. Il recroit au Père Noël, pourrait-on dire, il recroit à la Vierge de cette manière-là. Et donc, il remonte, il régresse. Et en régressant, il est placé à un stade antérieur à celui de l'apparition de sa maladie. Il remonte en amont de l'apparition de sa maladie, et donc par là même, il peut reprendre le cours de sa vie à partir de cette situation en amont de sa maladie, et donc la poursuivre de manière saine. Et c'est selon ce qui s'est passé pour Ézéchias, qui est replacé en amont de la situation où il était malade, et donc il peut poursuivre sa vie de manière saine. Bon, je vous livre ceci comme ça, c'était le fruit de nombreuses lectures, dans un domaine où il y a en fait très très peu de littérature, mais enfin bon, ce sont donc quatre explications possibles: la force de l'effet placebo, la force de l'hypnose, la force de l'auto-hypnose, liée à celle de la transgression de la loi qui veut qu'on reste malade, et puis la force également de cette sorte de récession en arrière, de régression en arrière, dans une situation d'enfance. Ceci dit, la question reste entière. En quel Dieu croyons-nous ? Et en quel Dieu voulons-nous croire ? Alors, j'ai insisté sur le caractère tout à fait miraculeux des guérisons naturelles. Les guérisons naturelles tout à fait miraculeuses. Et donc, effectivement, Dieu est peut-être purement et simplement la force du processus des guérisons naturelles. La force du processus des guérisons naturelles, la force aussi qui permet la ressuscitation en nous, du désir de guérir, alors que nous n'avions plus le désir de guérir. La force qui, en nous, reprend le mouvement de la confiance qui permet l'effet placebo. Effectivement, Dieu est peut-être cette force endogène, dira, à l'intérieur de nous-mêmes, qui est la force de la vie sous toutes ses formes, et donc cette force qui suscite le processus de la guérison naturelle, même si elle est tout à fait inattendue et tout à fait, je dirais, inexplicable, cette guérison naturelle. Mais effectivement, je crois que ceci est une manière de nous représenter Dieu, mais qui ne correspond pas, certainement, à ce qui reste en nous d'esprit d'enfance et peut-être d'esprit de foi aussi. Parce qu'en fait, je pense que chacun, dans son âme d'enfant, continue à vouloir croire, à espérer pouvoir croire en un Dieu qui opère réellement des guérisons miraculeuses, c'est-à-dire des guérisons qui aillent à l'encontre du processus naturel, des guérisons qui en fait soient contre la loi inéluctable de la maladie qui aille vers la mort. Donc effectivement, des guérisons inattendues, des guérisons capricieuses, des guérisons hasardeuses, des guérisons arbitraires aussi, parce que ceux qui sont été guéris par les guérisons miraculeuses de Lourdes sont quelquefois des athées ou des vauriens. Eh bien oui, effectivement, un processus tout à fait hasardeux, incompréhensible, mystérieux, qui serait celui de guérisons effectivement miraculeuses qui trompent la loi inéluctable de la nature et des processus naturels. Eh bien oui, au fond de nous-mêmes, j'en suis persuadé, nous aimerions croire à un Dieu qui fasse des miracles. Amen.